Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Nous poursuivons cette série avec Jean-Marie Delbos et Marie-Hélène, deux victimes de prêtres pédophiles. On est aussi un peu avec vous, Jean-Marie, et je vous salue tout de suite. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Avec cet ouvrage qui revient à travers aussi votre histoire, votre enfance à Betarame, cette fameuse affaire de Betarame qui a fait de nombreuses victimes pour vous. Hein. On ne compte plus, mais c'était il y a 69 ans et vous y pensez.
Si on m'avait écouté en 1962, combien d'enfants auraient été protégés? Mais les prêtres de l'époque n'ont pas pris conscience de ce qu'était la malfaisance de ce gars-là. Si on l'avait sanctionné, mais on ne l'a jamais sanctionné, on l'a envoyé dans d'autres... En tant que directeur, partout où il était directeur.
Alors, tous les deux, Jean-Marie, Marie-Hélène, mais je me tourne vers vous, Jean-Marie, vous avez été reconnu, après toutes ces années, tout récemment, en 2023.
Hein, en 2023.
Il aura fallu de la persévérance et de la détermination, et ça c'est peut-être votre force, votre personnalité, votre caractère. Est-ce que c'est important dans votre cheminement, votre histoire d'homme?
Oui, c'est très important. Quand je suis venu manifester en 2021 devant les évêques à Lourdes, toute la presse est venue, tout le monde en a parlé, sauf la presse locale. La presse locale n'en a pas parlé. Et la presse nationale en a parlé. Toutes les télés ont fait des reportages inouïs sur moi. On m'a entendu dans des pays européens. Et donc, on me dit, on ne t'a pas entendu. On ne savait pas ce qui s'est passé. Bon, moi je veux bien... Mais c'était le fait qu'on ne voulait pas parler de Betarame. Et donc j'ai été, suite à ça, Madame Margron, la fameuse religieuse qui s'est occupée des religieux, a été une femme formidable. Alors vous voyez, quand on parle des gens de la religion catholique, je vous parle de Mika qui est excellent, et je vais vous parler maintenant d'une religieuse qui est excellente aussi. Alors, vous allez dire, mais il est en contradiction avec ce qui... Non, je ne suis pas en contradiction. Il y a eu un pervers qui m'a fait des actes inqualifiables, et j'ai trouvé des gens dans le milieu catholique, des gens qui m'ont cru et qui ont été extraordinaires. Et donc, Madame Margron m'a reçu à Lourdes, et donc j'ai eu droit, j'ai été le premier de Betarame, quoi qu'on en dise, à être reconnu victime. Et sur le plan national, je suis le dossier numéro 4. Et donc, à partir de là, j'ai reçu la lettre des pères de Betarame, me disant qu'ils s'excusaient, et une lettre polycopiée, vous savez, il n'y a rien de... pour me dire que c'était pas normal, mais ils n'ont rien fait pour lui. Ils l'ont envoyé à Bethléem pour qu'il ne soit pas rattrapé par la justice française. Ils l'ont envoyé à Bethléem,
donc,
où ils savaient...
Ce que vous, vous êtes en train de dire, c'est qu'on l'a déplacé, simplement.
On l'a déplacé pour
sans traiter le problème.
Voilà, et on l'a déplacé en 2010, quand Léon Laclos a écrit au Vatican, parce que c'est un curé de Betarame, qui a été limogé parce qu'il avait trouvé épouse. Et donc, quand il a vu qu'il ne pouvait pas être écouté, il a envoyé ma lettre de soutien. Je lui avais fait une lettre de soutien. Il a envoyé ça au Vatican. Le Vatican a envoyé ça à l'évêque de Limoges, qui, l'évêque de Limoges, a transmis au parquet de Limoges, qui, le parquet de Limoges, m'a fait entendre. Mais ce qu'il faut savoir... c'est qu'il y a ce fameux, pour la loi française, le mot « prescription ». Donc on m'a dit, mais voilà, vous avez déposé plainte, mais les faits sont prescrits. Et j'ai réentendu ça quand j'ai été réentendu en 2025. Le procureur nous a reçus et a dit, mais affaire Delbos-Lamas prescrite. Et j'ai dit au procureur, vous inquiétez pas, on me l'a déjà dit en 2010. Donc voilà, alors il y a un mot magique qui a fait que la prescription, on a été à la cour d'appel de l'instruction, avec mon avocat, Maître Blanco, on a été contesté ce mot « prescription ». Mais tant que les députés ne se seront pas mis en ordre de bataille pour supprimer ce mot, il ne sera jamais supprimé. Et ça ne sera jamais, ça ne reviendra pas pour nous, puisqu'il n'y a pas de loi rétroactive. Donc le mot « prescription », pour nous, il est fini. Dans les victimes de ma génération, ils ne peuvent plus parler d'autres mots que de prescription.
Donc on entend bien qu'aujourd'hui, il faut quand même continuer à travailler sur, au fond, pour qu'il n'y ait plus...
Il ne faut plus qu'il y ait de ces problèmes.
Il ne faut plus de prédateurs.
Voilà, et il faut que les députés, je m'adresse aux députés, il faut que les députés fassent leur boulot. Là, vous pensez quand même que Vanier a fait une proposition de loi pour défendre les enfants. Elle a été rejetée il y a 8 jours. C'est pas il y a 6 mois, il y a 8 jours. Donc on l'a rejetée, allez savoir pourquoi. Mais c'est les politiques. Alors comme j'ai dit à Vanier, c'est méfiez-vous, monsieur le député, vous travaillez avec les politiques, vous verrez le résultat, il n'y aura rien. Et c'est arrivé.
Vous êtes à ses côtés, Marie-Hélène, vous êtes un accord complet, hein. Je vous vois dire gestuellement votre accord total où vous rejoignez Jean-Marie. Alors pour vous, cette reconnaissance depuis 2024, elle a été importante? Est-ce qu'elle est aussi un lieu presque thérapeutique après toutes ces années de silence et au fond cette maltraitance et ce crime vécu de vos 7 ans à vos 14 ans, puisque je rappelle que vous avez été, vous êtes une des victimes d'un prêtre.
Oui, c'est une énorme victoire parce que ça me donne enfin de la visibilité. Je peux enfin parler que j'ai été officiellement reconnue par l'instance nationale indépendante.
Donc une manière de sortir aussi de la culpabilité et de la honte.
Oui, oui, oui. De pouvoir m'affirmer, oui, je suis une victime, parce que jusque-là, j'avais honte, oui, c'est ça. Je me sentais coupable et j'avais honte.
Aujourd'hui, c'est fini. La page est-elle tournée? Est-ce que cette honte et cette culpabilité est derrière vous, Marie-Hélène?
Il y a encore beaucoup à faire quand même, parce que je ne me sens pas suffisamment entendue. L'Église a entendu, mais pas suffisamment à mon goût.
Alors, le 4 mars 2024, vous avez adressé un courrier. À l'époque, c'était le pape François qui était encore en vie. Il vous a répondu un mois après. Vous êtes venu avec ce retour de courrier qui date du 4 avril 2024. Est-ce que je peux vous demander de lire cette réponse du pape François qui vous est adressée?
Oui, très volontiers. Madame, votre lettre du 4 mars dernier est bien parvenue au courrier de sa sainteté le pape François. Il me charge de vous remercier pour le partage de l'histoire de votre vie. Votre témoignage a été lu avec attention et profonde compassion. Le Saint-Père vous exprime sa tristesse et sa douleur pour la souffrance que vous avez endurée et dont les conséquences perdurent encore. Il demande au Christ ressuscité, médecin des corps et des âmes, de vous accorder la guérison intérieure et de vous donner sa paix. Il vous assure de sa prière pour vous-même ainsi que pour votre famille et vous confie à la protection de Notre-Dame de Lourdes. Vous souhaitant de joyeuses fêtes pascales, sa sainteté vous accorde sa bénédiction en gage de réconfort.
Permettez-moi de vous demander, suite à la lecture de ce courrier du pape François, il parle de guérison intérieure, il vous souhaite une guérison intérieure et retrouver la paix intérieure. Vous en êtes où avec ce cheminement de guérison intérieure et de paix intérieure aujourd'hui?
Eh bien déjà, quand j'ai eu ce courrier, je suis allée voir le prêtre de la paroisse, je lui ai montré et je lui ai dit que je souhaitais l'afficher à l'église du village où le crime a eu lieu. Et il m'a aussitôt répondu « Je pense que c'est bien que ça soit affiché. On est de tout cœur avec vous. » Ah ben ça fait vraiment chaud au cœur.
Ça répare, hein, le cœur.
Oui, oui. Et donc, aussi je me dis que peut-être, mais d'autres victimes, en voyant ça, parleront. Mais je pense que les victimes, elles vont plus forcément à l'église, quoi. Mais c'était important parce que ce prêtre, il était bien vu, il faisait du bien aux enfants, il leur apprenait la musique, il mettait des pianos gratuitement dans les maisons pour leur enseigner la musique. Mais à côté de ça, il détruisait aussi les enfants. Et...
Alors une question, vous en êtes où avec la démarche du pardon? Est-ce que vous avez pardonné à ce prêtre?
Le prêtre, ben, j'aurais voulu lui pardonner parce que quand j'ai pris conscience qu'il était encore en vie, je voulais aller le trouver. Il était en maison de retraite et je voulais aller lui dire. Mais comme j'ai dit, à cause de l'amnésie, je n'avais pas assez les souvenirs. Je ne suis pas allée. J'avais peur qu'il soit dans le déni, qu'il refuse d'admettre. Et c'est compliqué. Moi, je vais mieux. Et surtout, ce qui me fait du bien, c'est de pouvoir témoigner, d'en parler. Et surtout, d'être entendu, qu'on nous croit. C'est très important, ça, parce que la reconnaissance, ça ne suffit pas. La lettre officielle de l'instance de l'INIR pour moi ou de la CRR pour Jean-Marie. Parce que je ne suis pas sûre que tous les catholiques ont encore vraiment bien compris. Et c'est ça qui fait mal. Je voudrais vraiment la reconnaissance profonde des gens qui font l'Église, qui se réclament de l'Église catholique.
Donc là, vous parlez de tous les laïcs, hein, hommes, femmes, qui représentent membres de l'Église catholique.
Ouais.
Ils vous entendent aujourd'hui, Marie-Hélène.
Et j'aimerais qu'ils entendent en profondeur.
Alors, je vous propose Marie-Hélène ainsi que Jean-Marie Delbos. Je rappelle que on peut suivre un peu votre histoire, votre trajet avec ce livre qui relate votre enfance à Bétharram. Et quand on entend Bétharram, c'est bien sûr aussi cette terrible affaire, hein, histoire, l'affaire Bétharram. On se retrouve demain. Merci à tous les deux.